Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël. Après avoir été tour à tour journaliste média, humoriste sur France 5, comique chez Michel Drucker, me voici désormais historien. Preuve que la France et son fameux ascenseur social est vraiment la patrie de tous les possibles. En chemin, j'ai rencontré un châtelain spécialisé dans les vérandas qui tournait en rond dans sa demeure. Il déambulait
seul, très seul, mélancolique, dans une galerie des glaces plus longue que celle du château de Versailles, éclairée de 2000 bougies.
Ah ouais, ça paye les vérandas. Bonjour Stéphane Bern.
Non mais ça va pas. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ma vie rêvée. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter, avec toujours 3 personnages que tout oppose, mais il y a un fil conducteur entre eux.
Bien sûr, Stéphane, ici tout est pensé, nos personnages ont toujours un point commun. C'est pourquoi si je vous dis que j'ai invité dans la même émission le chevalier Déon, Marie Ride, la femme pirate, et Conchita Wurst, forcément, vous avez deviné.
Une spéciale barbue ?
Non, Stéphane, une spéciale travestie. Ah ! Qui n'a jamais rêvé de se travestir ?
Ben, moi.
Ne dites pas n'importe quoi, Stéphane, j'ai des photos qui prouvent le contraire.
Ah non, 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 je me suis costumé, je me suis déguisé.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Mais jamais travesti.
C'est bien ce que je dis, je mettrai toutes les photos sur les réseaux sociaux.
Mais rassurez-moi, il n'y a pas que des travestis aujourd'hui dans l'émission, il y a aussi des chroniqueurs.
Oui, mais des chroniqueurs travestis peut-être, s'ils ont respecté la thématique. Hein,
Alors au sommaire, comme chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach nous embarque dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui...
Une spéciale disco ?
Non, spéciale Rasputin.
Ah ouais,
oui. Lover of the Russian Queen. Et une sexualité riche, vous verrez. Riche aussi en calories. Et oui, parce que c'est la chronique gastronomique d'Olivier Pouls qui nous racontera l'histoire du croissant au beurre.
Le croissant au beurre, c'est excitant aussi. Et on jouera évidemment notre désormais célèbre quiz. Burn to be alive, célèbre pour la qualité de ses questions et célèbre malheureusement aussi par la pauvreté des réponses de Stéphane.
Oh
mais on
non.
commence, comme toujours Stéphane, par un saut de cabri dans le passé. Un retour aux origines d'un objet de notre quotidien. Voyons tout de suite si David Castello-Lopez a été cohérent avec la thématique de notre émission du jour en se travestissant. Déception. Bonjour quand même, David.
Bonjour.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler des crash tests dummies. Et vous allez voir ce que c'est dans quelques instants.
Bon, je sais ce que c'est, merci. Ah, Stéphane, évidemment, non. C'est ça d'avoir une chaîne à porteur et pas une voiture.
J'ai hâte de savoir.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on ne se contente pas de vous raconter les destins fascinants de personnages flamboyants. On est aussi extrêmement concret, enfin, surtout lui. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour, comment ça va ? Alors, je vais devoir, encore une fois, vous avouer quelque chose.
Oula.
Il m'arrive...
C'est un peu comme une thérapie pour vous, cette
tout
émission.
Tout à fait, c'est exactement ça. Il m'arrive, une fois de temps en temps, tard le soir, seul devant mon ordinateur, de regarder sur YouTube des compilations d'accidents de voiture. C'est pas très fréquent, hein, mais quand même, une fois par an peut-être, je commence à regarder. Là, je suis complètement terrifié et en même temps, je suis complètement hypnotisé.
Alors, surtout que vous n'avez pas votre permis de conduire.
Oui, en plus.
C'est pour ça que vous n'avez pas à force de regarder des vidéos d'accidents.
Oui. Alors, je me sens un petit peu coupable de regarder ces vidéos, mais en même temps, je me dis que cette curiosité morbide, elle est naturelle en fait, puisque, je veux dire, mourir, c'est quand même super relou. Or, on ne sait presque rien sur ce qui se passe quand on meurt, donc on va glaner des infos là où on peut, par exemple dans des compilations d'accidents de voiture. Et en plus, ça a du sens parce que statistiquement, c'est une des principales causes de mortalité chez les jeunes hommes comme moi. Alors, c'est une des principales causes de mortalité, mais quand même, ça va infiniment mieux qu'avant. En 1972, par exemple, en France, il y a eu 18 000 morts sur les routes. 18 000, c'est l'équivalent de la population de Chaville. Et vous imaginez sa ville sans personne, ce serait encore plus triste.
Ça ferait bizarre, oui.
Aujourd'hui, il y a 6 fois moins de morts sur les routes, alors même qu'on fait beaucoup plus de kilomètres en voiture. Alors comment c'est possible ? Eh bien, une des raisons, c'est tout de même que les voitures, maintenant, quand on a un accident, eh bien, non seulement elles se plient plus comme des canettes de soda, mais en plus, on est super bien attaché dedans, et à l'intérieur, il y a des coussins qui apparaissent un petit peu partout, tout ça. Et toutes ces choses, la déformation du véhicule, la ceinture de sécurité, l'airbag, elles ont été mises au point patiemment en utilisant de fausses personnes en métal ou en plastique, qu'on appelle en anglais des crash tests de mise, en français, des mannequins d'essai de choc.
Oui, Stéphane, parce que vous pensez
pensiez qu'on mettait vraiment des gens dans, pour tester les voitures, des manants par exemple, comme ça qu'on aurait récupéré dans la rue. Non, alors en fait, on a inventé ce concept du crash test dummies pour ne pas avoir à sacrifier des gens.
C'est un concept. Je tiens à préciser que je n'ai jamais pensé des vrais gens à l'intérieur.
C'est bien de le rappeler.
Alors, les crash test dummies, c'est des mannequins qui sont généralement, vous voyez un peu leur tête, ils sont généralement chauves, ils ont l'air parfaitement sereins, vous voyez.
Jusqu'au moment de l'impact.
Et on les met dans des voitures, et puis on balance ces voitures à 80 km/h contre des murs en béton, et on regarde à quel point les mannequins sont cassés, ce qui nous donne une idée d'à quel point de vraies personnes vivantes seraient cassées à leur place. Et la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est donc, mais d'où ça vient les crash tests de mise? C'est qui le gars ou la fille qui a eu l'idée? Eh bien, comme super souvent, ça vient des États-Unis.
C'est fou ça.
Mais dans les années 60, aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a zéro dispositif de sécurité dans les voitures. Vous prenez un mur, vous mourrez, et c'est comme ça. Et puis, petit à petit, les Américains se disent, quand même, ce serait bien qu'on meure moins. Et en 1966, une loi est votée qui s'appelle le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.
Mais il parle aussi bien anglais,
sens,
il maîtrise
vraiment tout le monde. Je sens que vous voulez que
je le répète. Je ne veux pas nous le dire en chinois ou en japonais comme l'autre jour.
Il faut que je m'entraîne
en japonais, c'est dire qu'un truc, c'est un jour de boulot avant. Donc là...
Le National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. Et à partir de là, ça devient obligatoire pour les constructeurs automobiles de passer des tests de sécurité qui sont les mêmes pour tout le monde. Sauf que là, problème... Les constructeurs, ils peuvent pas, hein, comme on le disait, juste prendre des gens vivants, les forcer à avoir des accidents et voir s'ils meurent ou pas. Donc le truc qu'ils se disent, c'est on va prendre des gens déjà morts.
Non.
Et dans les années 60, c'est ça qu'ils font. Ils prennent des cadavres, ils leur mettent plein de capteurs dedans et ils les font mourir une deuxième fois en les écrasant contre des murs. Bon, il y a une petite pudeur quand même, c'est qu'on leur mettrait du sparadrap partout, donc on voyait pas vraiment leur visage se disloquer, mais c'était quand même des vraies personnes sous le sparadrap. Mais ces cadavres, ils posaient deux problèmes. Le premier, c'est que les gens, même morts, ne font pas tous la même taille ni le même poids. Donc c'est super dur de comparer les tests. Et surtout, une fois que la personne morte est toute cassée, après s'être pris un mur dans la gueule, on ne peut pas la réutiliser. On est obligé de l'acheter et de prendre une autre personne morte.
C'est le problème des cadavres. Hein.
Voilà. Et la solution, c'était donc de fabriquer un mannequin qui ait le plus de caractéristiques possibles en commun avec une vraie personne et qu'on puisse facilement réparer quand il est cassé. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits aux États-Unis, mais celui qui est considéré comme l'ancêtre de tous les crash tests de mise contemporains, il a été créé en 1968 par un ingénieur qui s'appelle Samuel Anderson et qui a baptisé son mannequin VIP. VIP, il avait une cage thoracique avec des côtes en acier, mais quand même une colonne vertébrale et des articulations flexibles, ce qui était déjà pas mal. Petit à petit, on l'a amélioré, on l'a rendu de plus en plus réaliste, on a mis dedans de plus en plus de capteurs, et surtout, on lui a donné une femme et des enfants crash test dummies. Et aujourd'hui encore, chaque jour dans le monde, cette famille de mannequins se fait écraser la gueule dans des accidents terrifiants pour que nous, on survive quand ça nous arrivera pour de vrai. Alors franchement, on peut leur dire merci.
Vous en avez appris des choses aujourd'hui, Stéphane,
Oui. Mais c'est incroyable.
On n'était même pas à savoir où ça avait été inventé. Vous ne saviez pas que ça existait.
Je ne savais même pas que ça existait.
Mais en tout cas, vous avez vu des images.
Si, j'ai vu des images.
Oui, quand même, ça vous revient.
Non, je ne comprenais pas le mot anglais pour vous dire.
Merci beaucoup, David Castello-Lopez. On vous retrouve demain pour un nouveau retour aux origines.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, certains sujets que nous traitons dans cette émission, c'est humain, tiennent plus à cœur à Stéphane que d'autres. Est-ce le fait d'évoquer aujourd'hui le destin de Charles de Beaumont, alias le Chevalier d'Éon, un des plus célèbres travestis de l'histoire, qui excite particulièrement Stéphane? Ce n'est évidemment pas à moi de le révéler, même si en arrivant à Europe 1 dans sa Jaguar décapotable ce matin, il avait l'air plutôt de bonne humeur.
Et pour
un vampire,
je ne veux me dédédire, puisque sans
contre-façon,
je suis un garçon.
Oui, Stéphane, on y vient.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Rire avec l'histoire sans jamais la travestir, telle aurait pu être notre devise si elle n'avait pas été si pompeuse. Et aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, justement, des travestis en veux-tu, en voilà, des travestis à gogo, c'est notre thème. Et on commence, Stéphane, par le plus emblématique d'entre tous, le Chevalier d'Éon.
Historiquement vôtre. Le récit.
Oui, Mathieu, le Chevalier d'Éon, c'est Charles Geneviève d'Éon de Beaumont. Le personnage le plus ambigu du XVIIIe siècle.
Il y a Geneviève dans son nom. Donc
un homme qui se déguise en femme et qui aujourd'hui encore suscite de nombreuses interrogations. Les fables et affabulations au sujet du Chevalier d'Éon sont nombreuses. Oui, l'histoire et de nombreux récits ont travesti la vie de ce travesti. Alors, on va tenter, Mathieu, d'être précis.
Oui, essayez pour une fois, pas comme dans le quiz.
Charles, arrêtez. Charles Geneviève d'Éon de Beaumont, donc, un prénom masculin. Ouais. Un autre féminin, ça ne vous a pas échappé.
Ah non.
Il est déclaré garçon par son père. Mais il était classique à l'époque d'accoler un prénom féminin, celui de la marraine, le plus souvent. Vous savez, beaucoup d'enfants naissaient avec le prénom de Marie dans leur prénom. Après de brillantes études, Charles Geneviève enfile la robe d'avocat, uniquement, et travaille au Parlement de Paris. Très à l'aise en société, il se lie d'amitié avec les bonnes personnes, comme le prince de Conti, cousin de Louis XV, qui dirige la politique étrangère secrète du roi, qu'on appelle à cette époque-là le secret du roi. Le prince de Conti flaire l'intelligence du chevalier Déon et l'envoie en Russie avec un diplomate pour négocier un traité d'alliance face à la tsarine Élisabeth Ière. C'est un succès. Après plusieurs années passées en Russie, Louis XV est ravi des services du chevalier Déon. Pour le remercier, il nomme celui qui a toujours voulu être militaire, capitaine des dragons du régiment d'Autichan pour aller se battre vaillamment.
Enfin, le chevalier part au combat, Stéphane.
Oui, mais ce sera de courte durée, Mathieu. Blessé à la jambe, le chevalier Déon reprend sa carrière diplomatique. Le roi l'envoie négocier un traité de paix avec l'Angleterre et le charge d'une mission secrète. Préparer les plans d'une invasion de l'Angleterre auprès de son ambassadeur à Londres. Le chevalier Déon poursuit son ascension. Il est nommé ambassadeur par intérim. Son train de vie mondain coûte une fortune. Il donne des bals pour toute la noblesse anglaise tous les soirs. Lorsqu'il demande que soit augmenté le budget annuel de l'ambassade, qu'il dilapide en à peine quelques mois, le ministre Choiseul refuse. C'est la première fois que le chevalier Déon est désavoué par le pouvoir royal.
Il faut dire qu'il abuse un peu.
Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison.
C'était trop cher.
Sauf que, lorsqu'arrive le nouvel ambassadeur, le chevalier Déon se voit rétrogradé. Il devient simple informateur du roi. Il en est furieux. Commence alors une terrible querelle entre eux, ce qui lui vaudra même le blâme.
Mes aïeux.
Oui, le chevalier Déon, qui a sabordé sa carrière de diplomate, ne fait plus parler de lui. Ne plus être au centre des discussions et au cœur du pouvoir le rend dingue. Et rapidement, la rumeur court que le chevalier Déon est une femme. Des caricatures le représentant femme commencent à circuler. Et qui fait courir cette rumeur, Mathieu, je vous le demande?
Bah vous, Stéphane, depuis le début de cette émission.
Mais non! Essayez de comprendre ce que mon récit...
c'est pas facile, Stéphane, vous savez.
C'est le chevalier Déon.
Il a fait de hautes études comme vous, moi. Hein.
C'est le chevalier Déon lui-même.
Ah, et, lui-même?
Mais oui, pour faire parler de lui.
Ah.
Voyez, si maintenant vous révéliez que vous étiez une femme...
Ah, peut-être et... ça buzzerait.
Ah bah...
On devrait essayer.
Oui. Ça buzzerait, sûr. Le chevalier Déon, donc, c'est lui-même qui révèle ça. Il a été célèbre et célébré, il a défrayé la chronique pendant plusieurs années. Il veut continuer à être reconnu et admiré.
Mais on le reconnaît en femme, alors ?
Le chevalier Déon, Mathieu, veut simplement qu'on reconnaisse ses talents. Il veut apparaître comme une femme exceptionnelle. Son seul intérêt est qu'on parle de lui. C'est un Michelot, quoi. En Angleterre, on commence alors à parier sur la nature de son sexe. Mais il va être pris à son propre piège et poursuivi. Le chevalier Déon est obligé de se cacher, personne ne sait où il est. Mais lui sait qu'il doit quitter l'Angleterre et rejoindre son pays, la France, car sa mission est terminée. Il en est d'ailleurs très inquiet. Louis XV est mort, le secret du roi a disparu, il craint donc de perdre ses revenus. Mais c'est sans compter sur son atout. Le chevalier Déon détient des documents secrets commandés par Louis XV qui causeraient une déclaration de guerre, un casus belli en quelque sorte, si jamais ils étaient révélés en Angleterre.
Vous parlez aussi latin, Stéphane. Tous les jours, j'en apprends sur vous.
Apprenez-en surtout sur le chevalier Déon. Il fait donc partie de ceux qui savent que la France prévoit un débarquement en Angleterre dans les années à venir. Le chevalier Déon peut alors faire chanter le nouveau roi de France, Louis XVI.
Là, il le fait chanter, je me souviens même de la chanson. Toute notre jeunesse, Stéphane.
Enfin, la vôtre, en tout cas. Et oui, Sans contrefaçon de Mylène Farmer est sorti un peu après.
Oui, quelques années plus tard, oui.
Et là, je vous rappelle, nous sommes en 1775. Louis XVI envoie un ancien des services du secret du roi, un certain Beaumarchais, récupérer les documents confidentiels que détient le chevalier Déon. En échange de quoi, Charles Déon de Beaumont peut revenir en France. Mais la rumeur enfle. Le chevalier Déon et Beaumarchais auraient une liaison. Allons bon, la presse anglaise annonce même un mariage.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Stéphane, vous savez à quel point j'aime l'histoire ? Alors, en plus, quand c'est une histoire de travestie, je n'y tiens plus. Racontez-nous vite la suite des aventures du chevalier Déon.
Je réponds à votre impatience, Mathieu. Reprenons sur cette question. La seule question qui vous taraude, je le sens bien.
Est-ce qu'il s'est tapé Beaumarchais ?
Oui, c'est vrai que c'est... A-t-il une liaison avec Beaumarchais ?
C'est fou.
Ben oui.
Vous semblez connaître la réponse. Ah, ça m'excite d'avance. Allez-y, Stéphane.
Je ménage mes effets. Les rumeurs vont bon train, mais en réalité, on ne lui connaît aucune aventure. Rien ne prouve qu'il ait d'ailleurs aimé les hommes ou les femmes. Peut-être trouvait-il pleine satisfaction dans le travestissement et le regard des autres.
Continuez, Stéphane, je vous regarde juste.
À cette période-là, les Anglais qui ont parié sur le sexe du chevalier Déon, souvenez-vous, réclament leur dû. Deux parieurs vont devant la cour du banc du roi pour savoir qui des deux a gagné. Déon est-il un homme ou une femme ? Le chevalier n'assiste pas au procès. Le tribunal anglais, avec des témoins soudoyés bien sûr, déclare que le chevalier Déon est une femme. Louis XVI accepte donc que Déon rentre en France, mais à une seule condition, qu'il reste habillé en femme. Marie-Antoinette, donc la reine de France, va jusqu'à lui offrir les services de Rose Bertin, sa couturière, pour lui confectionner un nouveau trousseau. Il apparaît à la cour comme un grotesque travesti aux bras poilus. On lui apprend à se comporter comme une femme, on lui donne des cours de maintien, on lui montre comment marcher avec des chaussures de femme. Ce n'est que quelques années plus tard que le chevalier Déon, ou plutôt la chevalière, retourne à Londres habillé en femme. Assume-t-il enfin ? Ben non. Mais privé de rente, il effectue des duels à l'épée pour gagner sa vie. En public, même devant la cour d'Angleterre, malgré ses 60 ans passés. Et c'est empêtré dans une jupe longue, évidemment, qu'il croise le fer et remporte la plupart de ses duels. Mais ce n'est pas suffisant, Mathieu, pour vivre dignement. Le chevalier Déon est devenu très pauvre, ruiné et blessé. Il finit ses jours avec une vieille dame qui est persuadée de vivre avec une vieille copine.
Triste fin. Mais au final, est-ce que lui-même, le chevalier Déon, il se sentait homme ou femme ? Est-ce que lui-même savait s'il était un homme ou une femme ?
Il faut attendre la fin de sa vie pour avoir la réponse. Après avoir semé le doute sur son genre tout au long de son existence, le chevalier Déon meurt à 81 ans à Londres, mais les médecins n'allaient pas le laisser emporter son secret dans la tombe.
Dites-nous, bon sang, dites-nous !
On examine le corps et il est démontré que la ci-devant chevalière Déon était réellement un homme. Enfin, la vérité est exposée au grand jour. Mais cela ne suffit pas à convaincre tout le monde. Le journal de Paris relance la controverse en écrivant sur les incertitudes du sexe du chevalier Déon. Voltaire, lui, qui l'a rencontré à Paris, l'a décrit comme un animal amphibie qui n'est ni fille ni garçon. Du nom du chevalier Déon, qui a passé 49 ans dans la peau d'un homme et 33 ans dans celle d'une femme, il reste aujourd'hui pourtant un mot, éonisme, pour désigner le goût du travestissement. Bah forcément.
Éonisme, à ne pas confondre avec onanisme, Stéphane, le goût, enfin, vous le savez.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et si quelqu'un, quelque part en France, connaissait encore mieux le chevalier Déon que Stéphane Bern ? Ça paraît fou. Et pourtant, nous sommes en ligne avec l'historienne Evelyne Levert, qui a beaucoup travaillé sur ce célèbre travesti. Elle est notamment l'auteur de « Chevalier Déon, une vie sans queue ni tête », coécrit avec Maurice Levert chez Fayard.
Bonjour Evelyne, bonjour Evelyne Levert.
Bonjour Stéphane Bern.
Comment on peut expliquer justement ce suspense tout au long de sa vie et qu'il soit resté comme ça dans l'histoire? C'est parce que...
C'est parce qu'il a entretenu.
Il a entretenu cette ambiguïté toute sa
mais
vie.
Mais bien sûr, parce que c'est un homme qui aimait se mettre en scène, qui s'est toujours plu dans le double jeu et qui était narcissique au dernier degré, qui avait une très haute idée de sa valeur, qui était provocateur et qui a toujours joui de l'irréalité dans le réel. C'est un grand mystificateur qui aimait troublé, mais il aimait tellement troubler les autres qu'il était, je pense, extrêmement troublé lui-même sur sa nature exacte, alors que c'était évidemment bien un homme, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et d'ailleurs, le jour où on a découvert que c'était un homme, ça a été une espèce de tsunami en Angleterre. Parce qu'il vivait avec cette vieille dame qui pensait que c'était une vieille fille à côté de lui. Et puis, comme ils étaient devenus très pauvres l'un et l'autre, cette vieille dame qui était sa compagne, mais enfin sans ambiguïté du tout, elle était tellement pauvre qu'elle a fait elle-même la toilette mortuaire du chevalier Déon.
Et là, surprise.
Et elle s'est aperçue, oh horreur, qu'elle vivait avec un homme et non pas avec une femme. Cette pauvre dame qui s'appelait Mrs. Cole a aussitôt appelé des voisins pour constater ce qu'elle avait, ce qui allait être révélé. Et là, on a transporté le corps à l'hôpital où un chirurgien a fait l'autopsie en présence d'un certain nombre de témoins, il y en a une dizaine, et tout le monde a signé pour dire que le chevalier Déon n'était pas une femme, c'était pas la chevalière Déon, mais c'était
un chevalier
Déon.
Alors, Evelyne Levert, on vous retrouve dans un instant parce qu'il faut absolument qu'on essaye de comprendre comment ça a pu tenir si longtemps, cette mystification. A tout de suite.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
historiquement vôtre.
Et nous sommes toujours avec Evelyne Levert, le chevalier des lances.
On se passionne pour cette histoire du chevalier des lances. Sans queue ni tête, mais sans queue ni tête, Evelyne, vous voulez
Oui,
je vous en prie, Stéphane.
Non, mais à mon avis, il n'en faisait pas beaucoup usage. Mais...
oui, alors c'est ça qui est fascinant. Oui. Est-ce qu'il avait une vie sexuelle, le chevalier des lances? Parce que qui joue encore sur le mélange des genres, en fait, il était peut-être un homme, mais visiblement, il n'avait pas des désirs d'homme, en tout cas.
Non. Alors justement, quand il était jeune et certainement assez charmant, il y avait un vieil ambassadeur qui l'aimait bien, qui lui avait dit, mais que faites-vous de la terza gamba? Et le chevalier ne lui avait pas répondu. Il avait souri de façon angélique et il s'est toujours vanté d'être chaste. Il disait qu'il vivait sans femme, sans amant, sans chien, sans chat, sans perroquet. Il était seul. Et seul, il est resté tout en ayant non pas des amis intimes, mais un certain nombre d'amis, relations. Mmh. Ça, il en avait énormément, mais on ne lui connaît aucune liaison. Et ça se serait su dans les milieux des ambassades qu'il a fréquentées pendant quand même plus de 20 ans. On aurait su s'il avait eu des liaisons masculines ou féminines. Mais il n'en a jamais eu.
Jamais eu. Mais comment on explique que ça ait marché? C'est-à-dire qu'il ait réussi cette mystification. Par exemple, quand il se présente en femme, par exemple à la cour d'Angleterre, il était crédible.
Ah, mais c'est dans la deuxième partie de sa vie.
Oui.
C'est bien plus tard.
Oui, mais s'il était crédible en femme, c'est ça qu'on a dit.
Stéphane se pose la question, lui-même aimerait tenter une deuxième vie, une deuxième carrière.
Mais il n'a jamais été à la cour d'Angleterre en femme. Il a été, lorsqu'on lui a imposé le sexe féminin, puisqu'il avait été déclaré femme par un tribunal anglais, Louis XVI a dit, il doit revenir... Bien. Habillé en femme. Et là, on l'a vu à Versailles, habillé en femme.
Et là, alors, il était crédible.
Il n'était pas crédible. C'était épouvantable. Parce que jamais il n'avait eu plus l'air d'un homme que habillé en femme. Vous comprenez? Il avait des bras poilus. Il se rasait. Alors, on voyait sa barbe qui affleurait sous les couches de maquillage. Mmh. Il avait un pouf qui lui avait. Un pouf, c'est-à-dire un chapeau extraordinaire qui lui avait été confectionné par Rose Bertin. Enfin, c'était effrayant. Et alors là. On a été obligé de lui apprendre à se comporter en femme. Alors, il a dû supporter son déguisement et il disait qu'il était prisonnier de guerre, puisque c'était un militaire aussi. Il avait été militaire. Il disait que je suis un prisonnier de guerre. Et il fallait qu'il surveille ses attitudes et puis qu'il entende auprès des femmes, parce qu'on le reléguait avec les femmes, des conversations frivoles. Ça le rendait absolument fou. Et il était regardé comme une sorte d'animal de foire. Alors, il a cultivé ça pendant un moment, mais il avait une verve étincelante qui ajoutait à la curiosité. Et alors, il en rajoutait, il se comportait vraiment en homme sous des habits féminins, il se tapait sur les cuisses et puis il avait des propos qui étaient des propos plus que gaillard. Alors tout le monde voulait le voir, il était submergé par les invitations et à ce moment-là, il se trouve que Voltaire était à Paris et Voltaire a voulu le voir. Et la chevalière d'Eon, puisqu'on l'appelait comme ça à ce moment-là, est allée avec un manchon et un chapeau sur la tête, elle est allée voir Voltaire, très gênée parce que quand même ce Déon était un homme fort intelligent, il avait un esprit étincelant, la conversation a été assez rapide et Voltaire a dit... Déon sera une pucelle d'Orléans qui n'aura pas été brûlée. Et il a ajouté, ça va faire un beau problème dans l'histoire.
Non, mais c'est passionnant.
Et on a envie de continuer à l'étudier à travers peut-être votre livre, Chevalier Déon, une vie sans queue ni tête. Merci à vous, Evelyne Levert, d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous éclairer
beaucoup.
Sur la chevalière chevalier.
Merci de m'avoir invité.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous êtes déjà passablement émoustillé par cette histoire du Chevalier Déon.
Hein. Mais vous aussi, je le vois. J'ai vu que vous avez pris des notes.
C'est vrai, j'ai pris pas mal de
notes. Vous me dites, ça va tiens pour la soirée de l'ambassadeur.
Ça peut servir. Vous êtes mûr pour notre prochaine rubrique, celle de Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous entraîne chaque après-midi dans l'intimité de l'histoire. Quand Catherine Henriette de Beauvais déniaisait Louis XIV, ou encore quand la mamie de la Pompadour lui expliquait comment les choses allaient se passer.
Le prince charmant va sans doute te surprendre par son comportement. Mais surtout, n'aie pas peur.
T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais.
Clémentine Portier-Kaltenbach était là. Elle nous le raconte en exclusivité dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, deux heures durant lesquelles on vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Et Mathieu, au-delà des coups d'État, des guerres, des révolutions, qu'il est bon aussi de farfouiller dans les alcôves, dans les coulisses de l'histoire et même dans l'intimité de ceux qui l'ont faite.
Oui Stéphane, c'est sûr que c'est bon, c'est pas très chrétien, mais c'est bon. Et pour ce qui est de farfouiller, nous avons recruté une experte, la Colombo de la Sorbonne. Le genre de femme qui peut s'exclamer en plein open space.
C'est comme Stéphane avec son Phimosis.
Oui, chut. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
J'ai pas de Phimosis, non.
Non, mais pas du tout. Non, mais c'est vous qui adorez parler de celui de Louis XVI. Non, mais écoutez,
c'est
messieurs, on se calme. Moi, je vous propose d'élever le niveau spirituel de cette émission en évoquant Rasputin, homme du peuple, pèlerin mystique et guérisseur. Alors, quand on y regarde bien, il a quand même un passé et une jeunesse un peu inquiétant. Surtout, il semble avoir toujours été un peu exalté et masochiste sur les bords. Voilà, jugé plutôt déjà dans sa jeunesse, il se livrait à des exploits spirituels et physiques plutôt bizarroïdes. Il portait le verrigui, c'est un peu comme le cilice de Saint-Louis, voyez, c'est un très lourd collier ou une ceinture de fer qui meurtrit les chairs. Oh. Il se faisait enfermer des semaines dans la cave de son père pour lutter contre la tentation. Avez-vous fait un truc pareil?
Mais s'il avait des bonnes bouteilles, son père, c'était pas lutter contre la tentation.
Oui, peut-être des bonnes bouteilles de vodka.
Nous, on est moins tentés.
Et alors, devenu adulte, il séjourne plusieurs mois au monastère de Vercotourier, tenu par la mystérieuse secte des Clistis, adeptes de l'autoflagellation et de la transe, mais pas que.
C'est déjà pas mal.
Parce que la secte des Clistis, Clistis étant le mot russe pour fouet en français, on les appelle les flagellants en français, elle est taillée sur mesure pour un gaillard comme Rasputin, parce que les Clistis considèrent la débauche comme une sorte d'état purificatrice sur le chemin de la rédemption.
C'est pas con ça.
Il faut d'abord fouetter avant de pouvoir faire
mais sinon c'est pas qu'on parle
À grand péché, grande rédemption, il faut défier le péché et vaincre la chair. Alors d'où une pratique débridée évidemment de la fornication collective. Car c'est au cours de ces séances de réjouissance que le Saint-Esprit descend sur les adeptes. Leur sueur se mêle à celle du Christ. L'Église appelle ça la bière spirituelle. Et alors Rasputin lui va pratiquer frénétiquement la rédemption par la débauche. Il mène une vie de beuverie et de sexe, il a jusqu'à 10 relations sexuelles par jour, il boit comme un trou, il entraîne dans ses orgies des femmes de la haute société qui se battent littéralement pour devenir l'instrument de cette doctrine de rédemption par le péché.
Il y a un club, il y a une adresse
J'y viens.
Alors, succursale à Paris.
Tout à fait, vous inquiétez pas, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Alors au passage, en se faisant à l'occasion roué de coups, il découvre, selon ses propres termes, la joie de l'humiliation. Il écrit aussi « L'outrage est une joie pour l'âme ». Vous voyez, il est quand même un peu maso, Rasputin. Alors messieurs, j'y viens donc. Est-ce que ça vous aurait fait envie d'entrer chez les Clistis?
Il faut pas mourir idiot. Il faut essayer.
Avec la bière spirituelle. Oui, alors attention.
Il fallait
surtout pas se tromper de secte. Bon. Ne surtout pas confondre Clistis et Scopsis, la secte concurrente. Les Scopsis, eux, vilipendent les dérives sexuelles des Clistis et prêchent l'abstinence absolue. Et cet ascétisme absolu, on ne peut l'atteindre que par la castration, naturellement. Rigole moins. Donc, chez les Scopsis, l'avez compris, Scopsis, le mot signifie castration. On pratique de monstrueuses mutilations, castration des hommes à la hache ou au fer chauffé à blanc. Parfois même.
Volontaire.
Volontaire. Parfois même ablation du sexe dans son entier, plus ablation des mamelons. Et chez les femmes, évidemment, ablation des organes génitaux et des seins. Bon, écoutez. Oui, je vois vos têtes,
Stéphane,
là, évidemment. Bah oui, c'est un moment pénible à passer.
Mais Dieu nous a créés avec tout ça.
Exactement.
Et donc, il faut s'en servir.
Parce qu'en renonçant au plaisir de la chair, on avait toutes les chances de gagner la vie éternelle. Alors, allez savoir pourquoi Stéphane et Mathieu, Rasputin, ce saint homme, a préféré les Clistis aux Copsis. En tout cas, Mathieu, si d'aventure vous passez par Saint-Pétersbourg, où est mort Rasputin, allez prendre un peu d'eau à l'endroit même de la Neva où son corps fut découvert au lendemain de son assassinat, le 17 décembre 1916. Il paraît que l'on peut ainsi recueillir un peu de son pouvoir mystérieux. Stéphane et moi, nous avons déjà rencontré
l'arrière-petite fille de Rasputin.
Exactement.
Ah oui,
donc tous les deux, nous possédons déjà un peu de ce puissant magnétisme qui attire les gens à nous sans que nous ayons rien demandé. Allez, sur ce, je retourne à mes prières, messieurs Azdroviers, camarades journalistes.
Qui veut dire santé. Clémentine. Et vous ressentez ce pouvoir mystérieux en vous?
Oui, mais on a rencontré, souvenez-vous...
Mais qu'est-ce qu'elle fait, la petite fille de Rasputin, pardon?
Elle vend la mémoire de son arrière-grand-père. Mais on a rencontré aussi la descendante de celui qui l'a assassiné.
Youssoupov, mais moi, c'est marrant parce que je me souviens vraiment plus distinctement de l'arrière-petite-fille de Rasputin. Elle a de beaux yeux bleus, parce que j'essayais de retrouver dans ses yeux le regard extraordinaire de son aïeul.
Il faut quand même un jour qu'on parle de toutes ces femmes névrosées de l'histoire, comme la tsarine Alexandra Féodorovna. Elle était complètement exaltée. Oui. Mais au moment même, ça, avant la naissance de ses enfants, c'est quand elle a épousé son mari.
Alors, on est une Suze pour nos deux amis et l'émission continue. Il va y avoir maintenant
les grandes hystériques de l'histoire.
Les grandes hystériques de l'histoire, ça sera une prochaine thématique d'émission.
Ah, moi, je trouve c'est passionnant.
Très bien. Mais pour l'instant, il y a le quiz d'abord.
Vous voulez en faire partie?
Oui, peut-être que j'y aurai ma place. Mais pour l'instant, on va se foutre de vous avec le quiz.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
On a déjà évoqué ici l'histoire de ces hommes qui sont montés trop haut, trop vite, avant de redescendre brutalement comme une crêpe à la chandeleur, mais à côté de la poêle. On a évoqué l'histoire bouleversante de Nicolas Fouquet, qui était quasiment l'homme le plus puissant de France, avant de tomber subitement en disgrâce et de tout perdre, jusqu'à sa réputation et son honneur. C'est peut-être le même sort qui attend Stéphane Bern après le quiz que nous allons vivre maintenant, allons voir si l'égérie des campings Yellow parvient à tenir l'adresse de haute à une historienne comme Clémentine Portier-Keltenbach.
Ah, vous aurez droit à tout, mon pauvre Stéphane.
Mais c'est tous les coups bas, là.
Tous. Vous aurez droit à tous les coups bas. Si vous êtes prêts, jouons à Bern to be alive. Notre fameux quiz. Alors, première question est pour vous, Stéphane.
Oui.
C'est pas parce qu'on est dictateur qu'on n'a pas envie de convaincre. Saddam Hussein, en 2002, a produit un clip de campagne électorale qui est passé à la télé avec comme musique de fond « I will always love you » de Whitney Houston. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Vous savez, c'est un homme qui était très injustement.
Moi, ça me paraît pas très viril pour un gars qui voulait incarner...
Justement, comme vous savez, il faut rentrer dans la psychologie de Mathieu Noël. C'est un pervers, vous le savez.
Oui. Je le découvre.
Je pense que oui, ça peut être vrai.
Oh, le raisonnement est le bon. En passant par moi et ma perversité, vous avez la bonne réponse. C'est vrai. En fait, Saddam Hussein a fait faire une reprise par une pop star syrienne. Voici quelques notes de cette sublime version.
C'est donc, je vois que par rapport à vous, je suis très normal.
Oui. Oh, ça, ah, si on fait une soirée à la maison, on mettra ça en fonctionnement. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine, les Mayas perçaient leur pénis pour offrir du sang à leur dieu. Vrai ou faux?
Écoutez, je pense que sur la lancée du chevalier des Léons et des clistis et de la bière spirituelle à base de semences séminales, je peux dire oui à cette question.
Et oui. C'est vrai. Oui. Pour les Mayas, les dieux eux-mêmes, pour créer l'être humain, ont sacrifié leur sang. Et bien du coup, les mortels se doivent de leur rendre l'appareil, si j'ose dire. Et sans anesthésie, je le rappelle, à l'époque. Attention, c'est la question qui va vous départager. En 1978, le président de la Guinée équatoriale, Macias N'Guema, a changé la devise du pays. Quelle était cette nouvelle devise? 3 propositions. 1. Il n'y a pas d'autre dieu que Macias N'Guema. 2. Le ciel est plus bas que Macias N'Guema, ou 3, Macias N'Guema, c'est plus fort que toi.
Le ciel est plus bas, ça me plaît bien.
Et c'est un peu exagéré.
Ou c'est
quand
plus
même.
Fort que toi. Oui. C'est, ouais, moi je dirais 2 ou 3.
Dans le 2, c'est plus poétique parce que ça doit se dire en guinéen.
Comment vous le dire, comment vous le traduire littéralement? Vous embarrassez pas à faire une traduction complexe, mais juste littéralement en guinéen, petit échantillon peut-être de... Non, Stéphane, ça ne vient pas. Ça ne sort pas. Non,
en guinéen, ça rime. C'est bien.
Il s'enlise plus bas. Ouais.
Donc quelle est votre réponse?
Non, la dernière, ça fait pub pour Coca. C'est la 2.
Moi, je dirais la 1.
La dernière, c'est une pub pour Sega. C'est une mauvaise réponse de Clémentine. Une bonne réponse. Macias N'Guema, il n'y a pas d'autre dieu que lui. 1971, il prend le pouvoir.
On est chez les fous.
72, il se proclame président à vie. 78, changement de devise. En 79, il est renversé et exécuté. Comme quoi, il n'y a peut-être pas d'autre dieu, mais ça ne lui a pas réussi. Qui remporte ce quiz? À la surprise générale, c'est effectivement l'ambassadeur des campings Yellow qui s'impose, qui triomphe. Stéphane Bern a gagné.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le travestissement dans l'histoire. Voilà un thème que n'a jamais osé aborder de front l'université.
Mais nous, oui, on l'a fait, Mathieu.
Bah, on est en train de le faire, en fait.
Oui, parce que cet après-midi, dans Historiquement vôtre, comme d'habitude, nous partons à la rencontre de 3 personnages, 3 destins extraordinaires que tout sépare, sauf un point commun.
Oui, Charles de Beaumont aimait se travestir en femme. Marie Ride, la pirate, se travestissait en homme. Alors, on ne pouvait pas, parmi nos contemporains, ne pas évoquer celui qui n'a jamais pu trancher, si j'ose la formule, et qui est donc tout à la fois homme et femme.
Amanda Lear.
Alors, Stéphane, alors faites attention, c'est une amie. Non, l'inoubliable, l'impérissable, mais la peroxydable Conchita Wurst, sensation de l'Eurovision 2014.
Vous dites Wurst, vous?
Et comment vous dites-vous?
Wurst.
Wurst?
Oui.
Ah, mais je ne suis pas allemand, je ne fais pas l'accent allemand comme vous, Stéphane. Moi, quand je fais l'accent allemand, on dirait l'accent africain. Faites-nous.
Wurst, Conchita Wurst.
Oh, on s'y croit.
Saucisse.
Pas. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre. Deux heures de bonne humeur et de découverte pour enfin s'y retrouver dans une histoire qui est souvent complexe, n'est-ce pas Mathieu?
En effet Stéphane, si l'histoire peut séduire par sa richesse, elle peut aussi faire peur par sa complexité. Moi-même, plus jeune, je l'avoue, j'y comprenais rien, notamment dans les histoires de succession royale. Faut dire que les principaux intéressés eux-mêmes parfois ne comprenaient pas trop où ils se situaient dans l'arbre généalogique, surtout en Angleterre.
J'ai une énorme révélation à te faire. I am not ta mère. Ta mère, ma fille, la femme de ton père était ta mère. À mère, à la mort de ta mère, ton père, ma fille, me dit « Sois la mère de ma fille. Je fus donc ta mère sans être ta mère. Mais pour mon cœur de mère à mère, tu étais ma fille. »
Franchement, j'y comprends rien. Ah, mais il n'y a que vous qui comprenez ces histoires-là, Stéphane.
Oui, mais heureusement, Mathieu, grâce à Historiquement Vôtre, désormais, vous allez y voir beaucoup plus clair. Parce que chaque après-midi, trois personnages qui sont unis par un point commun qui n'est pas forcément évident au premier coup d'œil.
Non. Aujourd'hui, ils ont tous été travestis. Le chevalier Déon se déguisait en femme, Marie Read, la pirate dont nous allons maintenant parler, se déguisait en homme. Quant à Thomas Neuwirth, il se déguise en un audacieux mélange des deux, intitulé Conchita Wurst. Mais il n'y aura pas que des travestis au programme de cette deuxième heure, Stéphane, rassurez-moi.
Vous êtes inquiet? Non, au programme de cette deuxième heure, et comme chaque jour, Olivier Pouls entrera sans toquer pour nous raconter l'histoire d'une recette dont il détient le secret. Oh,
détient le secret ou qu'il a lu sur Internet. Quoi. Moi aussi, je connais Marmiton, Stéphane. Hein.
Non, on parlera croissant. J'espère qu'il va en apporter, d'ailleurs.
Ah, ça serait pas mal. Oui,
des croissants en beurre.
Le programme est donné, le bal des travestis, comme vous l'avez joliment intitulé tout à l'heure, peut continuer avec tout de suite Mary Read.
Et Bruno Le Maire.
Ah non, Stéphane, on s'en dit qu'on n'en parlait pas. On parle uniquement de ceux qui l'assument ouvertement en public.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, deux heures d'érudition mais aussi d'aventure. Direction maintenant la mer des Caraïbes, à une époque où l'on y croisait non pas les yachts de milliardaires américains bedonnants voguant sous pavillon de complaisance, mais de féroces pirates dont le célèbre Jack Rackham, misogyne pur jus qui disait
« Il y a deux races de femmes, les frappées et les sournoises. »
S'il avait su que l'une d'entre elles était un de ces pirates.
Historiquement vôtre. Le récit.
C'est vrai qu'au début du XVIIIe siècle, la piraterie fait rage dans les mers du Sud. Jack Rackham, alias Calico Jack, ou Rackham le Rouge pour les fans de Tintin, écume les mers des Antilles. Un galion apparaît à l'horizon. Faites le pirate, Mathieu.
Navire marchand hollandais à bâbord, cap sur ce navire, à l'abordage.
Ah, c'est parfait, je m'y crois. Une demi-heure plus tard, l'équipage a pris possession du bateau. À bord, les marins ont le choix, rejoindre les pirates ou mourir. Les grands yeux verts de Willy Red pétillent. La soif d'aventure l'anime. Willy Red rejoint la bande de Rackham.
Qui n'a donc rien à voir avec la bande à Basile. Ça aurait mis d'ailleurs, ça aurait rendu les croisières plus sympas quand même pour les pirates. Alors,
les pirates ont peut-être fait la chenille sur le bateau.
L'histoire de
Après
pas.
Tout, on n'y était pas. Après tout, oui, ça ne me gêne pas, mais ils ont surtout beaucoup pillé. Furieux des pillages incessants de ces pirates des Caraïbes, le gouverneur des Bahamas veut leur peau. Il lance le capitaine Jonathan Barnett à leur trousse. Le 21 octobre 1720, The Revenge est repéré. C'est le nom du bateau. Hein. Oui. Barnett l'attaque aux aurores. Deux pirates, Willy Red et Adam Bonny.
Mais attendez, je vous fais les pirates qui sont repérés. Attention, attention, on est repérés. Demi-tour.
Donc, ils sonnent l'alarme et les autres ont du mal à émerger. Ils titubent et n'ont pas les yeux en face des trous parce qu'ils ont trop forcé sur la bouteille la veille. Même Rackham tient difficilement debout. Ces hommes sont terrifiés et courent se cacher sous le ponton. Seuls Willy Red et Adam Bonny se battent vaillamment. Leur courage est aussi aiguisé que leur sabre. Les coups parfaitement placés fusent dans tous les sens. C'est alors que quelques mèches de cheveux s'échappent de leur tricorne. Si l'on y regarde de plus près, les chemises des deux pirates font des bosses au niveau de la poitrine.
Des bosses au niveau de la... Je vais vous expliquer ce que c'est, Stéphane, après.
Incroyable, mais vrai. Les durs à cuire de la bande de Rackham sont en réalité deux femmes.
Non.
Mary Read et Anne Bonny.
On va de surprise en surprise avec vous, Stéphane.
Oui, parce que Mary Read n'en est pas à son premier travestissement. C'est sa mère qui a décidé de la faire passer pour un garçon dès son enfance. Veuve d'un capitaine de la marine décédé en mer, elle élève un garçon, Willy, chez sa belle-mère, en Angleterre. Mais elle tombe enceinte d'une fille à couche de Mary à l'abri des regards en 1690. Lorsque Willy meurt prématurément, elle a l'idée de déguiser sa fille avec des hauts de chausses, l'ancêtre du pantalon, pour la faire passer pour son frère aîné défunt. Cela dans le but d'obtenir une rente de la part de sa belle-mère. Celle-ci n'y voit que du feu et donne une couronne par semaine à la mère de Mary.
N'est pas lui faire offense que de dire que la belle doche n'avait pas les yeux en face des trous, Stéphane.
C'est vrai que le subterfuge fonctionne pendant de longues années. Lorsque la grand-mère décède, Mary a 13 ans. Cela fait donc 13 ans qu'elle grandit dans la peau d'un garçon sa grand-mère ne le voit.
Bonjour les séquelles psychologiques.
Oui, Mary Read rêve d'aventure. Habituée à s'habiller en homme, elle se travestit à nouveau pour s'engager dans la marine britannique avant de rejoindre l'infanterie en Flandre. Elle rencontre un maréchal des logis dont elle tombe folle amoureuse. Elle lui révèle alors son secret et toute sa féminité, bien sûr.
On a l'enregistrement,
pour pouvoir
d'ailleurs.
L'épouser.
On a l'enregistrement audio.
Ah oui ?
Bonjour, j'enlève ma culotte.
Mais c'est historique, hein, c'est Alina qu'on a retrouvé.
Le couple est contraint de quitter l'armée et ouvre une auberge dans le sud des Pays-Bas. Mais la pauvre Mary Read se retrouve seule. Son mari est emporté par la maladie 4 ans plus tard et l'auberge périclite. Mary Read reprend encore une fois son costume d'homme pour s'engager à bord d'un navire marchand hollandais. Et voilà que Mary Read, à nouveau sous les traits de Willy Red.
Pourquoi
oui,
ça
Reed
s'appelle Mary Read et Willy
oui.
Red.
C'est-à-dire que quand on change de personnage, la prononciation.
Hésitez, donc vous avez coupé la part en deux, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre.
C'est vrai ce que vous dites.
Bah, évidemment que c'est vrai.
Je
bois vos paroles, vous savez. Donc Alors choisissez. Est-ce que ça sera Willy Read?
Je vais vous faire deux versions, vous choisirez. Et voilà Mary Read de nouveau sous les traits de Willy Read.
Très bien.
Et voilà Mary Read de nouveau sous les traits de Willy Read. Ça vous va?
Ça me va.
Vous choisirez. En 1719, quand son navire est attaqué par Jack Rackham et sa bande, Mary Read est ravie d'intégrer la piraterie qui la fascine depuis toujours. Elle connaît le code des pirates qui comprend 11 règles. Les pirates peuvent donner leur avis sur les affaires importantes. Il est interdit de quitter le navire lors d'un combat. Il est interdit de frapper un camarade pirate à bord. Aucun pirate ne peut changer de vie tant que l'équipage n'a pas fait fortune et les musiciens peuvent se reposer le dimanche.
Des conditions somme toute assez confortables. La CGT n'aurait rien trouvé à redire. Hein, Stéphane, il manquait que les tickets resto.
Oui, Mary Read partage toutes leurs valeurs. Et la 6e règle qui stipule, je cite, que la présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite, ne lui pose pas de problème. Rappelons qu'à bord du Revenge, Mary n'existe pas. C'est Willy Read que l'on peut croiser sur le ponton.
Évidemment, et non pas Red.
Oui, parce qu'elle a changé de prénom et changé de nom.
Attends, elle a dit maintenant, on m'appellerait Read.
Bon, oui. Dieu reconnaîtra les siens.
Bien sûr.
À bord du Revenge, il y a maintenant deux femmes qui se déguisent en hommes.
Quel bordel, à bord de ce bateau, c'est quand même sérieux.
Oui, mais il ne faut pas se faire reconnaître, vous savez, parce que sinon, il peut vous arriver des bricoles. La deuxième femme qui se battait comme une chef contre le gouverneur des Bahamas tout à l'heure n'est autre que Anne Bonny. Mais contrairement à Willy Mary Read, Anne ne se déguise que de temps à autre et prend le nom d'Adam Bonny. Vous avez compris ?
Oui, ça va, oui.
Mary Read qui devient Willy Read et Anne Bonny qui devient Adam Bonny. Comment a-t-elle pu intégrer l'équipage en violant la 6e règle du code des pirates,
Je vous le demande, Stéphane.
Eh bien, tout simplement, parce que Anne Bonny est l'amante du capitaine Rackham. Ah. Elle a donc un statut privilégié. Bref, quand Willy Read rejoint la bande, une situation improbable se présente. Anne Bonny tombe sous le charme du jeune homme qu'elle trouve très à son goût. Elle se met alors à draguer ouvertement Willy Read, quitte à énerver son amant, Rackham.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, une émission placée aujourd'hui sous le signe de la réhabilitation. En effet, certains humoristes, en nous faisant beaucoup de bien, ont fait beaucoup de mal aux travestis.
Bonjour,
gosses, merci à ces jeunes.
Des travestis parmi lesquels, historiquement, on trouve quand même bon nombre de personnages extraordinaires, à commencer par celle dont nous parle Stéphane Bern, l'impétueuse Mary Read, première femme pirate que nous avions laissée travestie en homme, pile au moment où on apprenait qu'une autre femme de l'équipage, elle aussi sous les traits d'un homme, était amoureuse d'elle, enfin de lui. Bref, vous avez compris.
C'est bien résumé, Mathieu.
Heureusement que c'est vous qui faites le récit.
Face aux avances insistantes d'Anne Bonny, la compagne en secret du terrible capitaine Rackham, Mary Read est bien obligée d'avouer son secret. Elle déboutonne sa chemise pour laisser entrevoir sa poitrine. Elles sont bien deux femmes.
Oui, oui, d'accord, deux femmes. Très bien. Vous me parlez des seins encore.
Non, ça, évidemment, il y en avait deux.
Il y en a bien deux.
Elles sont bien deux femmes, donc, face à face. L'histoire raconte qu'elle noue alors une amitié solide. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve sur un navire pirate avec une femme qui se fait également passer pour un homme.
Ça, c'est sûr que c'est pas tous les jours.
On raconte que l'amour serait peut-être venu se mêler à leurs sentiments et que Rackham, qui n'était pas encore dans le secret, aurait même voulu tuer Willie Reed, le double masculin de Mary.
Mais alors qu'il y avait une autre possibilité, je vous laisse y réfléchir Stéphane.
Moi, perso,
j'aurais été Jack Rackham, j'aurais une autre idée qui me serait venue en tête.
Qui se tape les deux femmes en même temps.
Oh, je vous laisse la responsabilité de ces propos.
Mais c'est
gros
dégueulasse.
Mais l'idée
qui me mettait sur ce chemin.
L'idée était peut-être en germe dans mon esprit. Je ne l'aurais pas formulée comme ça.
Bientôt, tout l'équipage est mis dans la confidence, permettant aux femmes de se travestir à leur guise. D'autant que Willie Mary Read et Adam Anne Bonny sont des pirates hors pair. On les retrouve toujours en première ligne des combats. Elles sont moins lâches que les hommes qui pensent qu'à la bouteille. Elles n'hésitent pas à sauter les premières lors des assauts. La légende raconte qu'avant d'achever un homme qu'elle venait de vaincre, Mary Read leur dévoilait son sexe pour leur montrer qu'une femme pouvait se battre tout aussi bien qu'un homme. Après l'arrestation du Revenge, tout le monde est emprisonné en Jamaïque et condamné à la pendaison. Les deux femmes pirates, elles, sont graciées. Pourquoi un tel traitement de faveur? Parce qu'elles sont enceintes.
Mais de qui?
Et vous connaissez le puritanisme anglo-saxon du XVIIIe siècle? Condamner un enfant à naître, c'est inimaginable. Nul ne sait si elles étaient vraiment enceintes. C'est en tout cas ce qu'elles ont raconté pour s'en sortir. Il est fort possible qu'aucune des deux n'était réellement enceinte. Mais ce n'est pas la pendaison, mais la prison pour les deux femmes. Mary Read, qui restera dans l'histoire l'une des toutes premières femmes pirates, meurt en cellule quelques mois plus tard, en avril 1721, probablement emportée par la fièvre jaune.
Et Willie alors?
Ben, si vous avez bien suivi, on n'a entendu plus jamais parler de lui.
Ah oui, ça y est, ça fait.
Parce que c'est le même que Marie.
J'ai connecté.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et maintenant, Stéphane, nous allons vérifier si tout ce que vous avez raconté est vrai. Bonjour Marie-Ève Stenuit.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, historienne de l'art et auteur de « Femmes pirates, les écumeuses des mers » aux éditions du Trésor, ce qui d'ailleurs ne s'invente pas. Alors, à l'inverse du Chevalier d'Édéon, Mary Read se travestit par obligation, hein, pas par plaisir. À chaque fois, elle a une bonne raison dans sa vie.
Oui, absolument. Bon, d'abord, elle a pas, au départ, ce n'est pas elle qui a choisi. Comme
oui,
vous l'avez bien
travesti.
Raconté, c'est sa maman qui l'a forcée à vivre une vie de petit garçon au lieu d'une vie de petite fille. Ceci dit, ce n'était pas plus mal, parce que quand on est à la fin du XVIIe siècle dans la ville de Londres et qu'on n'est pas bien né, les horizons ne sont quand même pas très radieux, surtout quand on est une fille.
On parlait tout à l'heure avec Stéphane de la crédibilité d'incarner une femme quand on est un homme. Est-ce que ça paraît un peu fou, rétrospectivement, de penser que des pirates, donc on imagine des gros pirates poilus, trouvent crédible qu'elle soit un homme, ne s'interroge pas sur la part de féminité qui devait bien transparaître d'elle à un moment ou à un autre. Elle a vraiment trompé son monde ou bien on se disait, on comprenait dans l'équipage, on se disait que c'était peut-être une femme?
Non, je crois que c'était en fait assez facile de tromper son monde. On a beaucoup d'exemples dans les archives des différentes marines du monde. De femmes qui ont exercé sur des bateaux en se faisant passer pour des hommes.
Oui,
en fait,
d'autres.
On les démasquait que si elles étaient blessées. Et à ce moment-là, en les soignant, on s'apercevait que c'était des femmes. Mais sinon, l'hygiène et la vie intime étaient assez limitées tout de même sur les bateaux. On ne se déshabillait pas beaucoup, on ne se lavait pas beaucoup. Donc, ce n'était pas très compliqué d'entourer ses seins d'une bande de tissu bien serrée. Et voilà, la seule chose, c'est qu'on n'avait pas de poils au menton. Ça, évidemment, on avait toujours l'air peut-être d'un homme légèrement efféminé. Mais Mary n'a pas une vie non plus de petite fille délicate. Donc, elle a été confrontée aux réalités de la vie, à l'exercice des armes pendant très longtemps. Donc, elle avait certainement un corps musclé et Et bon, une apparence plutôt masculine.
Mmh. En tout cas, on va continuer à parler de Mary Read, notre pirate travestie, dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, dans un instant avec vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre.
Chaque après-midi, Historiquement Vôtre, c'est trois personnages dont on pourrait se dire « Tiens, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ceux-là » et qui ont en fait un point commun. Aujourd'hui, c'est Coquinou aimait bien se travestir. Quoique pour des raisons différentes. Mary Read, la femme pirate dont nous parlons, a dû se déguiser en homme parce que dans la piraterie à l'époque, ils n'étaient pas très MeToo. Tant vous dire que le capitaine Jack Rackham n'était pas chaud au départ pour l'enrôler.
L'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
D'où l'idée de se travestir. Alors justement, nous sommes toujours avec Marie-Ève Stenuit qui a publié « Femmes pirates, les écumeuses des mers ». Parmi ces femmes pirates, il y a Mary Read. Elle est une pionnière, l'une des premières, mais pas la seule. Déjà sur le bateau, elles sont deux avec Anne Bonny. On l'oublie un peu, Anne Bonny.
Oui, ça c'est vraiment un des hasards de l'histoire et qui a certainement contribué à leur notoriété. C'est qu'elles se sont retrouvées toutes les deux sur ce bateau en ayant des origines extrêmement différentes.
Oui, excusez-moi Marie-Ève Stenuit, mais je vois Stéphane qui agite les bras pour absolument poser cette question. Est-ce qu'il y avait un peu plus que de l'amitié entre Mary Read et Anne Bonny finalement?
Oui, ça c'est une grande question et qui passionne. Mais en fait, non.
Donc,
je sais que c'est très décevant. Je suis vraiment désolée, mais je ne crois pas du tout à une histoire d'homosexualité entre Mary Read et Anne Bonny. D'abord, toutes les deux, avant de faire partie de la bande de Rackham, ont été mariées. Et ce sont des mariages qui n'étaient pas des mariages arrangés. Ce sont des mariages vraiment souhaités, volontaires, qui ne leur ont attiré que des ennuis. Mary a été obligée de quitter l'armée. Anne a été chassée de chez elle parce que son père n'appréciait pas du tout le mariage. Cela dit, elle a vite abandonné son falot de mari pour tomber dans les bras de Rackham, donc de nouveau attiré par un homme.
Oui.
Et les minutes du procès, qu'on ne peut absolument pas mettre en doute, nous affirment qu'elles étaient enceintes. Et ce n'était pas du tout un subterfuge, comme vous l'avez laissé entendre. Elles étaient enceintes.
Mais de qui, Stéphane, vous êtes mauvaise langue.
De Rackham.
Alors, Anne Bonny était enceinte de Rackham, probablement pour la deuxième fois, et Mary n'a jamais voulu révéler l'identité de son amoureux, amant.
Comme ça, ça conserve un peu de suspense. On vous réinvitera, Marie-Ève Stenuit. Merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage « Femmes pirates, les écumeuses des mers » paru aux éditions du Trésor. Et je précise d'ailleurs qu'il est épuisé, mais qu'il sera réédité en février 2021. Il va falloir patienter un peu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Combien de fois, en cuisinant une béchamel, vous êtes posé la question, Stéphane?
Quelle question?
Afin de savoir d'où vient la béchamel, pour qu'on appelle ça béchamel exemple chabémel ou malbéchamel. Comment ça vous avez déjà?
J'ai bien connu monsieur de béchamel.
C'est vrai?
Bien sûr.
C'est un ami?
Et il était le saucier de Louis XIV.
Mais voilà, vous avez tout résumé. C'est passionnant de connaître l'origine des recettes. Parfois, même vous, Stéphane, vous les connaissez. Mais il y a Olivier Poulx, c'est sa spécialité. Il est là pour nous raconter l'origine des recettes.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement Vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous sert l'histoire sur un plateau. Bon, le sourire en plus.
Oui, tenez, posez ça là, Stéphane. Merci. Je ne sais pas si c'est le réalisme saisissant de ces effets sonores, mais je commence à avoir un petit peu faim, Stéphane.
Ça tombe bien, Mathieu. Regardez qui est entré dans le studio.
Par la barbe de Sainte-Clotilde et la glotte d'Amandalire. Oui, Stéphane, il est là. Ce personnage mystérieux à qui vous consacrerez bientôt un secret d'histoire encore plus passionnant que celui sur l'homme au masque de fer, l'homme au foie de fer. L'histoire d'un journaliste qui réussit l'exploit d'être en vie, sans cirrhose, après 15 ans passés à la Revue des Vins de France et à boire de l'eau environ...
Tous les 12 ans.
Bonjour Olivier Poulx.
Bonjour les amis.
Mon cher Olivier, aujourd'hui vous nous parlez de quoi comme plat?
Eh bien je vais vous parler d'un emblème du petit déjeuner à la française, que vous connaissez tous. C'est quoi votre petit déjeuner? Tiens,
Moi, c'est un petit déjeuner à l'anglaise. Moi je suis très british pour ce qui est du petit déjeuner.
Donc,
pour moi,
c'est bacon, des œufs.
Il faut qu'il y ait des œufs et des saucisses.
Ah oui? C'est pour ça, Conchita Wurst.
C'est pour ça qu'on choisit de parler de Conchita Wurst aujourd'hui. Oui.
Moi, c'est plutôt des fruits. Oui. Beaucoup de fruits, des yaourts. Non, c'est vrai?
Des bidons.
Pas un petit croissant. Oui.
Non, le croissant, c'est le dimanche.
Ah, le dimanche.
Oui, c'était une chronique intéressante. Ouais. Merci, Olivier. On a appris beaucoup de choses sur le croissant. Alors, d'où vient ce fameux croissant symbole?
Eh bien, il ne vient pas de France, non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et oui, il vient d'Autriche.
Mon nom!
Eh oui. Et une légende raconte qu'il est né lors du siège de Vienne par les Turcs en 1683. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
D'où sa forme? Oh non.
Eh oui, les Ottomans étaient prêts à attaquer la ville très très tôt le matin. Ils avaient commencé à creuser des tunnels. Mais les boulangers, levés de très 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 bonne heure, ont entendu du bruit. Ils ont donné l'alerte et ils ont empêché que la ville puisse tomber aux mains des Turcs. Et alors, pour célébrer cette victoire, ils ont confectionné une petite pâtisserie en forme de croissant, qui évidemment était l'emblème des Ottomans.
Pour se foutre de leur gueule.
En quelque sorte. Mmh. Et donc, ainsi est né le croissant, qui a continué d'ailleurs à être assez populaire à Vienne. Et ce croissant, il arrive en France un peu plus tard. C'est Marie-Antoinette d'Autriche, hein, qui était mariée à Louis XVI, qui emmène le croissant ainsi que d'autres petites
les
spécialités.
Les viennoiseries, qu'on appelait les viennoiseries.
Qu'on appelait les viennoiseries.
Tout c'est clair, grâce
tout
à
c'est
vous.
Clair, oui.
Et oui. Et en fait, les viennoiseries, le terme viennoiserie vient en fait un tout petit peu plus tard. Il vient avec l'ouverture à la fin des années 1830 de ce qu'on appelait la boulangerie viennoise. Ce sont des Viennois qui se sont installés à Paris. Ils étaient d'ailleurs rue Richelieu. Et ils ont amené les croissants et d'autres spécialités qu'on a appelées à ce moment-là, effectivement, les viennoiseries, parce qu'elle venait de la ville de Vienne.
Mais la recette, elle n'a pas été un peu modifiée par les Français ?
Bien sûr, bien sûr.
Je pense que c'était pas
Et d'ailleurs, vous allez à Vienne, vous mangez si vous demandez un croissant, c'est immangeable.
Oui, comme partout dans le monde, je ne veux pas être chauvin.
Les seuls qui savent les faire sont les Français.
Bah oui, parce qu'à l'époque, les premiers croissants, ils sont faits avec une espèce de pâte à pain à peine améliorée. On ne connaît pas la pâte feuilletée, on ne l'a pas encore inventée. Or, le vrai, l'authentique, le bon croissant, celui qu'on aime manger le dimanche matin, c'est le croissant au beurre avec de la pâte feuilleté.
Est-ce que vous le fourrez votre croissant, Stéphane ?
Non, je ne répondrai pas à cette question.
Mais c'est une question innocente.
La question que je me posais en écoutant Olivier Poul, c'est vrai que dans mon enfance, il y avait des croissants au beurre et des croissants nature.
Eh oui, au Saint-Loup. Alors, et ceux qui avaient de l'argent, ils achetaient les croissants au beurre qui coûtaient toujours un tout petit peu plus cher.
Et maintenant, il n'y a pratiquement plus que des croissants au beurre.
Oui, parce que les autres, franchement, ils ne sont pas très bons. Donc, il n'y a pratiquement plus que du croissant au beurre. Et cette recette-là, elle vient des années 1920, où on a vraiment figé cette recette. Mais si vous voulez ce week-end, par exemple, avoir un certain succès, voyez-vous, auprès de votre épouse et lui apporter au petit lever du jour des croissants frais, vous pouvez mettre votre réveil un peu tôt.
Ah
alors, allez à la boulangerie, mais les faire vous-même, mon
c'est
cher
vrai,
Mathieu.
On peut les faire. Non. Alors, ça va être une boucherie.
Alors, on peut les faire à condition d'avoir une bonne pâte feuilletée que là, pour le coup, on va acheter parce que faire de la pâte feuilletée, c'est vraiment très compliqué. Il y a des tours, il faut remettre
alors,
du
bras. Où est-ce qu'on achète de la bonne pâte feuilletée ?
Mais notamment, on peut trouver, je ne vais pas citer des marques, mais en surgelé, des pâtes feuilletées qui sont de bonne qualité. Alors, vous allez vous lever très tôt parce qu'il va falloir décongeler cette pâte feuilletée. Vous la décongelez la veille. Vous allez faire des petits triangles d'environ 10 cm de côté. Vous allez les rouler. On badigeonne avec un tout petit peu de jaune d'œuf ces croissants avant de les enfourner pendant environ 10-15 minutes dans un four bien chaud à 200 degrés. Puis là, vous savez, vous avez l'odeur qui commence à arriver dans l'appartement. Le temps de faire couler le café, d'enfiler votre plus beau peignoir de soie et puis vous débarquez dans votre chambre avec des croissants frais du matin, le café et tout. Et là, je peux vous garantir que ça vaut des points.
Merci beaucoup Olivier Poul. Vraiment, on peut réécouter d'ailleurs les papilles de la Nation pour reproduire votre recette. On peut l'écouter le jour, la nuit, en podcast, en tout cas sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Si Olivier Poul a présenté sa chronique aujourd'hui dans un déshabillé de satin largement échancré, c'est que nous rendons aujourd'hui hommage au grand travesti de l'histoire. Et après Mary Read, la femme pirate, Charles de Beaumont, le légendaire chevalier d'Éon, c'est bientôt mon tour de vous raconter l'histoire de notre personnage. Or, vous connaissez Stéphane, mon objectif dans cette émission.
Façonner de nouveaux équilibres politiques, défaire des empires et unir des peuples pour créer des nations nouvelles.
Non, enfin, on verra si j'ai le temps. Après, là, j'ai 5 minutes, donc j'essaierai plus modestement de vous faire sourire avec l'histoire étonnante de Conchita Wurst, ce chanteur pas comme les autres.
Oui, un portrait qui sera, comme d'habitude, à 99% vrai.
Ouais, 98.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand je pense que la direction d'Europe 1 me l'avait présenté comme un co-animateur, en réalité, moi j'ai vite compris que Mathieu Noël était un caillou dans la chaussure.
Je vous en prie.
Un type qui chaque jour s'emploie à nous saborder sur le plan éditorial en ajoutant à nos deux grands personnages historiques un troisième qui l'est beaucoup moins. Enfin Mathieu, aujourd'hui, vous voulez nous parler de qui après le chevalier d'Éon et Mary Read ?
Eh bien Stéphane, évidemment, bien sûr, j'ai envie de dire logiquement, Conchita Wurst. Qui donc ? Quel travesti a fait plus parler de lui ces 10 dernières années ? Vous voyez d'autres femmes à barbe marquantes dans l'histoire récente ?
Brigitte Macron.
Non, c'est pas. Non, tâchez de vous ressaisir. Souvenez-vous. Concours de l'Eurovision 2014. Celui que vous ne présentez pas. Hein, il n'y en a pas eu 36, vu que dès qu'il y a un cachet pas dégueu à la clé, vous êtes au maquillage.
Arrêtez.
Eurovision 2014, donc. Il est 21h12. Comme chaque année, des Lituaniens déguisés en robots succèdent à des Bulgares en string qui font du roller sur de la techno en beuglant en anglais approximatif. Cependant, qu'en coulisses, des Russes s'injectent une dernière rasade de Botox avant de monter sur scène et que le candidat français, qui lui a déjà perdu, s'enferme dans les toilettes pour pleurer. 21h12, quand soudain... C'est un bon résumé de l'Eurovision.
Quand soudain, c'est scandaleux ce que vous faites.
Apparaît Conchita Wurst, robe de cocktail à paillettes digne d'une actrice hollywoodienne, barbe broussailleuse digne d'un narcotrafiquant mexicain qui s'appellerait Raimundo. Tous les repères des téléspectateurs vacillent. Et chez les moins ouverts d'entre eux, la première réaction est évidemment, hélas, un rire gras et moqueur. Pourtant, au lieu de rire bêtement, il ferait mieux de saluer le courage de Thomas Neuwirth, ce chanteur et drag queen autrichien qui porte en fait un message d'acceptation et de tolérance et qui a fait de son personnage, de Conchita Wurst, le porte-étendard de la lutte LGBT. Alors, j'en ai bien conscience, retracer le destin de Conchita Wurst devant Stéphane Bern, un type qui a déjà du mal à accepter la modernisation en cours de notre société depuis 1789, et pour qui la libération sexuelle des années 70 est l'œuvre de Satan, une femme à barbe qui se maquille et se fait appeler Conchita Saucisse, c'est un peu trop pour lui, comme quand Christine Boutin s'était évanouie en apprenant que les hommes allaient pouvoir se marier. A noter, j'ouvre une parenthèse importante, qu'une autre saucisse aurait pu faire la une des magazines People 2 ans plus tard, puisque Stéphane Bern, qui commentait alors l'Eurovision 2016, avait lancé ce pari fou aux candidats aux représentants de la France, je cite, « Si tu gagnes, j'irai me baigner nu dans la fontaine de Stockholm. » Heureusement qu'on a perdu, avait commenté à l'issue de cette soirée les fans sur Twitter. Mais revenons à Conchita, ou plutôt à celui qui l'incarne, Thomas Neuwirth. Thomas passe une enfance paisible auprès de ses parents aubergistes dans les montagnes autrichiennes. Oui, bon, l'Autriche, la Suisse, tout ça, vous savez, pendant la guerre, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Thomas n'aime pas l'école et il éprouve des difficultés à se faire accepter tel qu'il est. Il tente par tous les moyens d'échapper au rythme scolaire traditionnel en simulant une rhinopharyngite aiguë tous les trois jours auprès de sa maman.
Je suis une malade.
Imitant assez mal de Funès, il échoue donc à sécher les cours. Il va découvrir sur les bancs de l'école qu'il ne fait pas bon être différent. Être un adolescent homosexuel dans un si petit village, ce n'était pas drôle, déclare Thomas, qui à 14 ans déménage à Graz et s'inscrit dans une école de stylisme. En 2006, il participe au télécrochet autrichien Starmania et termine deuxième du concours. Puis il fonde un boys band qui va vite se dissoudre. C'est là que Thomas invente la femme à barbe. Lorsqu'il devient animateur en 2011 d'un cabaret humoristique décrit, je cite, comme un happening underground non-stop destiné à un public exigeant. Je ne vous fais pas un dessin, Stéphane, vous voyez de quel genre de club il s'agit là. Vous en avez fréquenté vous-même un certain nombre, c'est le genre d'endroit où le spectacle est souvent participatif et où on finit gavé de poppers, la tête en bas, les pieds en l'air, en s'écriant
« C'est la lionne, je suis attaché à un poteau !»
Ah oui, vous y étiez encore hier soir. Mais c'est là que nous allons ensemble, Stéphane, percer le mystère de la saucisse. Car oui, en allemand, « Wurst » signifie bien « saucisse », mais en fait... ce n'est pas ce que vous croyez.
Non. Là, j'ai compris. Ah oui, c'est drôle.
Mais non, précisément non, Stéphane. Vous n'avez pas compris. Peu de gens ont compris, peu de gens savent. Trop content de pouvoir associer le physique burlesque de Conchita et le mot tout aussi burlesque de saucisse. Car si Thomas Neuwirth a choisi le pseudonyme de Wurst, ce n'est pas dans une volonté potache. Car en allemand, le mot Wurst peut également se traduire par l'expression peu importe. Un véritable message de tolérance, en somme, d'acceptation. Voilà l'idée de ce nom de scène. Oui, Conchita, peu importe. Homme, femme, homo, hétéro. Peu importe. En 2014, donc Stéphane n'étant pas là pour trafiquer les votes, Conchita remporte la finale de l'Eurovision avec 290 points. Sa carrière est lancée. Elle se produit notamment dans la cérémonie des Golden Globes. Elle se produit moins notamment à Montpellier pour la fête de la musique de France 2 présentée par Patrick Sébastien. Volons-y bouffonne, faut bien bouffer, déclarera Conchita, qui enchaîne néanmoins les collaborations prestigieuses en défilant par exemple pour Jean-Paul Gaultier. Pinacle de son ascension médiatique, son autobiographie « Moi, Conchita, rien ne nous arrêtera » sort en mai 2015, éclipsant l'autre biographie choc de ce printemps 2015, « Moi, Stéphane Bern, Louis XXII, en avant toute ». Attention, précision d'importance, Thomas, qui incarne Conchita, ne s'identifie pas comme transgenre. Il est homosexuel et se décrit comme drag queen. Il utilise des pronoms féminins pour décrire son personnage de Conchita et des pronoms masculins pour parler de lui. Finalement, à la question bateau des journalistes, qu'est-ce qui vous différencie d'une femme ? Thomas répond toujours malicieusement, vous l'avez compris Stéphane ?
La bite.
Mais non, peu importe, je vous l'expliquais Stéphane, il s'appelle Wurst parce que ça veut dire peu importe et pas saucisse. Être un homme ou une femme, peu importe.
Bah oui, en somme, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Non, vous avez rien compris Stéphane. Bon, en fait, puisqu'on parle de ça Stéphane, vous pensez quoi de Tom Leb, le dernier candidat français qui aurait dû représenter la France à l'Eurovision si le concours n'avait pas été annulé ?
J'adore.
Non mais je veux dire musicalement.
J'appellerai mon avocat après.
Oui, moi aussi, j'ai pas d'avocat donc je dirai rien.
Non mais c'est pas...
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Oui, d'accord.
Historiquement vôtre.
Nous entrons mon cher Mathieu dans la dernière ligne droite d'Historiquement vôtre.
Hélas, trois fois hélas.
Nous nous acheminons vers ce qui sera indéniablement l'apothéose de cette émission.
Ah.
Le clou du spectacle.
Vous allez vous-même vous travestir ?
Non. Je vais juste faire ma chronique, les fins mots de l'histoire.
Ah, Mais vous savez, Stéphane, il faut quand même qu'on buzz. Hein. Vous êtes sûr, vous n'avez pas une petite jupe à portée de main ?
Mathieu, l'histoire, c'est du sérieux. Puis même si je mettais une jupe, vu qu'on est à la radio, bah, l'effet serait limité. Hein.
C'est pas faux.
Un peu comme vous.
Passez donc plutôt à vos fameux mots de la fin, Stéphane. Chaque jour, une expression décortiquée pour vous.
Je vais justement garder, tout en gardant les mêmes vêtements masculins, vous proposer ma chronique sur l'origine d'une expression. Si je vous dis Mathieu, Nikita.
Luc Besson.
Je suis certain que vous pensez tout de suite justement à ça, oui. Mais vous avez oublié Nikita Khrouchtchev. Oh. Nikita Khrouchtchev qu'on appelait Monsieur K. C'est un 7 septembre 1953 que ce dernier devient premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Ce personnage historique truculent restera comme le nouveau visage du parti de l'après-Staline. Côté anecdote, il est bien entendu connu pour avoir retiré sa chaussure, vous étiez trop jeune pour le voir, en plein discours à l'ONU, et avoir frappé son pupitre avec pour exprimer son mécontentement.
J'étais surtout pas né.
Oui, mais tu n'as même pas une idée. Les avis divergent selon les raisons et la véracité de l'anecdote, mais la légende, elle demeure. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion pour moi, et je sais que le chemin était un peu long dans mon cerveau.
Il était même tortueux, passé par Khrouchtchev pour arriver à l'expression.
L'expression « trouver chaussure à son pied ».
Évidemment, là tout de suite, on pense Nikita Khrouchtchev. Quoi. C'est
actuellement... C'est de façon courante trouver ce dont on a besoin. Mais le plus souvent, il faut bien le dire, trouver chaussure à son pied, ça veut dire chaque peau à son couvercle, c'est trouver l'amour. On notera que la métaphore sexuelle est peu élégante.
Oui.
Le pied entre dans la chaussure, il faudra bien qu'on soit à l'aise, sinon ce sera vite inconfortable. Puis après, il faut sortir avec, il faudra changer de paire. Bon, on se dit d'ailleurs trouver chaussure à son pied et non chaussure à ses pieds, au pluriel, comme si il suffisait d'en trouver une pour être bien.
Idiot. Bah
c'est idiot.
Ça pourrait pas marcher. Mais non. Oui.
L'expression apparaît en fait au XVIIe siècle, mais avec une toute autre signification. À l'époque, ça voulait dire trouver quelqu'un qui résiste.
Ah, c'est presque l'inverse.
Oui. Et quand on n'a pas trouvé chaussure à son pied, on est dans ses petits souliers. Une expression pour dire qu'on est gêné, mais qui est devenu beaucoup plus tard pas à l'aise dans ses baskets. D'ailleurs, au Brésil, on dit ne pas être à l'aise dans sa jupe. Mais promis, j'enquêterai prochainement pour savoir si même les hommes et les travestis, pas seulement les travestis, peuvent utiliser cette expression.
Au Brésil, je crois qu'ils peuvent, ils ont une dérogation. Merci Stéphane pour ce fin mot de l'histoire. C'est avec des larmes dans les yeux, des paillettes dans les cheveux et du rimmel le long des joues que Stéphane et moi voyons arriver inéluctablement la fin de ce numéro spécial travesti d'Historiquement Vôtre.
Mais Mathieu, mais quel chemin parcouru en 2 heures de forêts autrichiennes au salon parisien, en passant par la mer des Caraïbes.
Sacrée croisière, en effet, Stéphane. De laquelle on retiendra qu'être à la fois homme et femme peut être une force, dans le cas du Chevalier Déon et de Conchita Wurst, mais aussi un poids, notamment quand on a affaire à des marins machos du XVIIIe siècle, comme cette pauvre Mary Read, qui n'arrivait jamais à dormir tranquille. Et oui, elle était belle en homme.
C'est pas une raison pour me tripoter. Je commence à en avoir marre de tes grosses mains.
Contrairement à sa jambe, Jack Rackham n'était pas de bois.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
À l'heure de refermer ce 11e numéro, déjà d'Historiquement Vôtre, consacré aux grands travestis de l'histoire, je sais ce que vous avez envie de me dire, Stéphane.
Je ne veux me dédire, puisque sans
propre façon, mais surtout, vous voulez dire que vous êtes triste de me quitter.
Bah oui, enfin, surtout de vous quitter, chers auditeurs. Heureusement, on se retrouve demain à 16h avec 3 nouveaux personnages à découvrir. Antoine de Saint-Exupéry, Jacques Vergès et, attendez, je relis...
Mais c'est moi qui ai trouvé le dernier.
Loana.
Oui, c'est moi.
Ah, leur point commun, c'est quoi ? Ils ont tous mystérieusement disparu.
Mais, leur tour de poitrine aussi.
Non.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.